Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Nathalie Zajd, maître de conférence en psychologie à l'Université de Paris 8 Saint-Denis, spécialisée en ethnopsychiatrie. Vous avez ouvert en 1990 un groupe de parole dédié aux survivants de la Shoah et de leurs familles au sein du centre Georges Devereux à Paris, ce qui fait donc pour vous plus de 25 ans d'expérience en matière et consultation spécifique de survivants et d'enfants cachés. Vous avez d'ailleurs consacré plusieurs livres à ce sujet, parmi lesquels « Guérir de la Shoah, enfants de survivants, les enfants cachés en France ». Nous avons le plaisir de vous recevoir à nouveau aujourd'hui pour un colloque qui aura lieu dimanche prochain, le dimanche 11 octobre, au Mémorial de la Shoah, intitulé « Les générations d'après », qui s'intéressera donc à ce qu'on appelle la deuxième génération, les enfants d'orphelins de la Shoah ou d'enfants cachés, afin de les faire s'exprimer sur la manière dont ils appréhendent le passé de leurs parents et de leurs grands-parents, mais également leur propre rôle dans le collectif au sens large. Vous avez réuni avec le service culturel du Mémorial de la Shoah des personnes d'horizons différents, mais tous personnellement concernés par le sujet. On peut citer Arnaud Klarsfeld, Christophe Boltanski ou encore Éric Rochant. C'est la première fois qu'un colloque est organisé sur ce thème.
Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que c'est la première fois qu'un colloque est organisé sur ce thème? Je crois pas. Je crois qu'il y en a eu déjà, mais au Mémorial de la Shoah, c'est sûr que c'est la première fois qu'on propose une réflexion pluridisciplinaire, on va dire. On a invité des personnes qui appartiennent à des champs très différents. Et on s'est dit qu'on allait réfléchir ensemble sur, au fond, ce qu'était la Shoah pour ceux qui naissent, qui sont nés après, ce qu'on appelle la seconde génération, mais pas seulement. Aussi les enfants des enfants de victimes ou de survivants, pour comprendre un peu comment on hérite, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage, est-ce qu'on en hérite ou pas, et quand on en hérite, de quel héritage il s'agit.
Justement, vous avez conçu ce colloque de manière, oui, pluridisciplinaire, parce qu'on parle tout autant de psychologie que de politique, que d'histoire, que de culture.
Alors, c'est au fond, comment dire, on a réfléchi et on est parti, c'est surtout avec l'équipe de la cellule des psychologues du Centre Georges Devereux qui en charge, donc depuis, comme vous le disiez, vous le rappeliez, depuis près de plus de 25 ans, des familles de survivants, des survivants et des descendants et des petits-enfants de survivants de la Shoah, on s'est rendu compte que prendre en charge psychologiquement des personnes qui présentaient des troubles et qui avaient vécu des troubles psychiques et qui avaient vécu la Shoah, les prendre en charge de manière la plus efficace, nous imposait de considérer avec le plus grand sérieux leur trajectoire de vie et le contexte sociopolitique, historique, dans lequel ils avaient vécu et auquel ils avaient survécu. Autrement dit, quelqu'un qui a été traumatisé dans le cadre d'un génocide, c'est quelqu'un qui est marqué après les événements qui continuent à être marqués comme si l'événement continuait. Ça veut dire pour nous, psychologues, que le problème n'est pas tant à l'intérieur de la personne, enfin, et pas uniquement à l'intérieur de la personne, mais qu'il est aussi à l'extérieur. C'est-à-dire, la personne présente des troubles parce qu'elle a subi un événement qui a été pensé, conçu, mis en œuvre par des tiers objectif. Et là où l'équipe du Centre Georges Devereux a peut-être innové, on va dire, c'est que nous avons considéré que nos connaissances en psychologie n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait qu'on se nourrisse également, qu'on ait des outils qui relèvent du savoir des historiens, mais aussi du savoir de la science politique, mais aussi du savoir des religieux. Quelle était l'intention des génocidaires nazis quand ils ont éliminé les juifs d'Europe? quels étaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme but, non pas de tuer des individus, des humains, des êtres humains individuels, mais de tuer une culture. Et donc, il fallait qu'on comprenne quelle était cette intention, sur quoi elle était basée, comment elle s'est mise en œuvre, et surtout, pour comprendre pourquoi elle continuait, en fait. Enfin, je veux dire, pour comprendre en quoi la terreur et l'horreur continuaient son œuvre au-delà de 1945. Et c'est là où nous, on se situe, c'est-à-dire dans ce colloque, en tout cas. C'est d'essayer de comprendre comment ça se fait que des personnes nées en 1945, en 1946, en septembre 1945, ou alors bien plus tard, bien après, dans les années 60, comment se fait-il que des personnes issues de cette population présentent des troubles comme s'ils avaient vécu les événements. Donc, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cet événement ? Et alors, pour vous donner un exemple de réponse, on a, dans ces groupes et dans ces consultations qu'on a créées avec les familles de survivants, on a un certain nombre de seconde et même de troisième génération qui disent, ok, moi je suis née bien après... dans un milieu bourgeois ou à l'aise financièrement, la paix, on n'a jamais connu en France une société aussi paisible, on va dire, enfin en Europe, antiraciste. Bref, mes angoisses, mes rêves de nazis sont évidemment mes problèmes psychologiques personnels. Mais régulièrement, je me dis, mais si j'étais née en 1944 ou 43, et si, au lieu d'être née en 1946, si j'étais née juste avant, ben moi aussi, j'aurais été menacée. Moi aussi, j'aurais pu... En fait, il y a ces idées morbides, mais qui reposent sur des réalités. C'est-à-dire, c'est vrai que si, en tant que membre de cette famille, si j'étais née juste avant, ben j'aurais été comme la plupart des membres de ma famille... tués pendant la Shoah. Parce qu'il faut vous dire que c'est quelque chose qui nous frappe quand on reçoit les familles de survivants, c'est qu'on, depuis toujours, on dit, bon, bah alors vous appartenez à quelle famille on demande aux gens de faire un arbre généalogique avec nous. Et on se rend compte, depuis les premiers moments où on a commencé à travailler avec les familles de survivants, dans les années 90, même la fin des années 80, une chose nous a tout de suite frappé, c'est que dans les familles de survivants, il y a plus de morts que de vivants. C'est-à-dire... Il y a plus il y a quelques survivants, surtout ceux qui étaient en France, mais par exemple tous ceux qui étaient en Roumanie ou en Pologne, c'est des familles entières qui ont disparu. Et donc au fond, la norme, c'est les morts. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Et en même temps, donc quand les gens disent, moi si j'étais née un peu avant ou si j'étais née à Lodz au lieu d'être née en Auvergne ou à Paris, c'est sûr que je ne serai pas là. Donc c'est ces questions-là qu'on doit, sur lesquelles on base nos réflexions et nos recherches.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de fidélité à cette famille ? C'est-à-dire en entretenant peut-être ces symptômes-là, une manière de rester fidèle à ceux qui sont morts ou à ceux qui l'ont subi ?
Alors c'est vrai que dans les familles, quand on regarde une même génération, une fratrie, il y en a un... ou deux ou trois qui disent moi je suis atteint par ces questions, je suis l'enfant de ma famille, quoi. Et puis il y en a d'autres dans la même fratrie ou dans les mêmes classes d'âge, des cousins qui disent mais nous on comprend pas pourquoi ils s'intéressent à ça, c'est du passé, c'est fini, puis bon. On peut pas être défini par ça, on lâche, quoi. Et donc, en fait, peut-être que ceux qui sont le plus touchés ou plus fragiles, je sais pas, peut-être ceux qui, comment dire, les êtres qui sont les plus comme des éponges, on va dire, dans les fratries, sont ceux qui présentent des symptômes et c'est ceux qui sont, au fond, les plus fidèles ou qui rappellent aux autres, en quelque sorte, que, attention... Attention, il y a là quelque chose, il y a là un questionnement, c'est-à-dire comment on est vivant après la Shoah, comment on continue à exister, non pas en se raccrochant absolument à la Shoah, mais en disant, ben, au fond, il s'est quand même passé quelque chose de terrible dans ces familles. Est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut reprendre la vie comme si de rien n'était? C'est comme si c'est des personnes avec leur souffrance personnelle qui posaient la question aux autres. Alors peut-être les autres n'ont pas envie, les frères et sœurs disent, ça suffit, on passe à autre chose.
Ça n'est pas anodin, du coup, d'avoir organisé ce colloque au mémorial de la Shoah. On a l'impression que ce lieu fait parfois office de seconde famille pour les personnes qui, justement, n'ont plus de famille ou ont des familles trouées. C'était important que ce soit là.
Oui, c'est important que ce soit là. C'est un lieu, parce que c'est un lieu très complexe, le mémorial de la Shoah. C'est à la fois un lieu de solennité, c'est un lieu de cérémonie, c'est un lieu où on rappelle les événements dramatiques. Et c'est en même temps un lieu de savoir, c'est un lieu d'archives, c'est un lieu où, où on recueille énormément d'informations, où sont déposées énormément de données, de documents concernant la vie des Juifs. Vous savez que c'est l'ancien CDJC, donc c'est la vie des Juifs avant, pendant la Shoah, et c'est très important parce qu'il y a énormément de gens qui viennent là, à la fois pour recevoir des informations, mais aussi pour en donner. Ce qui fait que nous, on insiste énormément sur le fait que nous, les psychologues du Centre Georges Devreux, la position que nous avons prise, c'est nous aidons des personnes qui sont en souffrance. Mais aider les personnes en souffrance, ça peut se faire à condition de considérer que les personnes ont des richesses, qu'elles ont des choses à nous apporter. Ne pas les considérer uniquement comme des victimes, bien qu'elles soient aussi des victimes, elles ont subi des agressions, mais aussi comme des gens qui peuvent nous enrichir. Et au fond, le mémorial de la Shoah, c'est un lieu où il se passe, où les gens viennent demander qu'on les écoute, demander un soutien, une aide, un lieu où ils savent que ce qu'ils ont subi va pouvoir être écouté, entendu et respecté, et en même temps, un lieu où on leur dit, mais venez nous apprendre des choses, venez nous enrichir de votre expérience, à la fois de victime, mais aussi de survivant, et puis aussi de parents, et puis enfin de la vie juive. Et ça, c'est pour ça que de faire un colloque comme ça dans ce lieu, il ne s'agit pas de réunir uniquement des lamentations, mais au contraire de savoir et se lamenter, et rappeler le passé, mais aussi faire des propositions. Parce que ce qui nous intéresse, avant tout, c'est de faire des propositions pour les générations d'aujourd'hui et de l'avenir.
Mais justement, la première génération, c'est, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a transcendé ce traumatisme, mais en tout cas, elle s'est investie dans l'action politique, humanitaire ou artistique. Est-ce que c'est la même chose avec la génération suivante? Est-ce que ce sont le...
Oui, il nous semble, je dis nous, c'est-à-dire les psychologues, quand on travaille avec les familles de survivants, il se pose il y a une question fondamentale qui est quand on survit à un traumatisme, quand on survit à une menace de mort, à une situation morbide où beaucoup de gens meurent, la personne qui survit ou ceux qui survivent se demandent toujours mais comment c'est possible, pourquoi ai-je survécu, pourquoi, non pas en termes de culpabilité, mais j'aurais dû mourir, j'aurais dû mourir. Tout le monde est mort autour de moi, c'était la logique que je meure, étant donné les conditions. Et moi, j'ai survécu. Ou nous sommes très peu, nous avons survécu. La première chose, c'est, après un tel événement, on ne peut pas vivre comme si ça ne s'était pas passé. C'est-à-dire, c'est la mort. On était voué à mourir, on n'est pas mort. Donc, il y a une vraie question. Pourquoi on aurait dû mourir? C'est la première question, évidemment. La deuxième question, c'est tout le monde est mort et pas moi. Pourquoi faire? Pour quelle existence? Et du coup, pour survivre, pour continuer à vivre et pour survivre, on est obligé de se redéfinir. Il y a une redéfinition obligatoire. C'est-à-dire que avant, je vivais normalement, naturellement, automatiquement. Et là, depuis là, je vis. Il y a plein de survivants qui disent qu'ils font du rab. Ils ont cette expression. C'est-à-dire, depuis 1945, c'est en plus. Et si c'est en plus, ça ne peut pas être banal. Si c'est en plus, ça ne peut pas être comme tout le monde. Si c'est en plus, il y en a plein qui souffrent parce qu'ils ont une vie qui ressemblent à celles qu'ils auraient pu avoir avant. Et ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que si j'ai survécu à une telle expérience terrifiante, alors il faut faire quelque chose d'autre. Il faut être là pour quelque chose. Il faut avoir une vie différente. Et au fond, il y a beaucoup de survivants qui ont rêvé de cette vie. Et il y a un certain nombre qui parviennent à avoir une vie hors du commun. Et les enfants de survivants, au fond, il y en a un certain nombre qui se pensent aussi comme ça, en disant, bah, puisque nos parents ont survécu, ils n'auraient pas dû, nous, on n'aurait pas dû naître, on est nés, alors, pour quelle existence? Bon, au fond, quand je vous dis ça, moi, je me dis que c'est, au fond, aussi la définition des juifs en général, enfin, du peuple juif en général. S'il y a un peuple, enfin, il y a un groupe de juifs, et c'est une ethnie, ou c'est une culture, ou c'est une histoire qui survit depuis des siècles et des siècles et des siècles, et qui est le peuple le plus vieux d'Europe, qui aurait dû disparaître depuis longtemps et qui est toujours là. Donc il y a une espèce de... Entre ce qui se passe pour la logique de la survie après la Shoah et puis la logique de la survie du peuple juif au travers des cultures et des générations, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et quand au fond, quand on soigne un survivant ou un enfant de survivant, ou un petit enfant de survivant qui présente des symptômes, qui a la vie qui s'arrête comme ça, qui ne peut plus continuer, qui est pris d'étouffement, de crise d'angoisse, de crise de panique, de phobie, qui n'arrive pas à avoir des relations amoureuses, qui n'arrive pas à avoir des relations avec ses propres enfants, enfin, qui est comme ça troublé, empêché de vivre, au fond, notre position, finalement, dans la prise en charge, c'est la même position que par rapport au reste du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est... Mais t'es là, mais pour quelle existence? En quoi... Enfin, qu'est-ce qui t'empêche d'exister? Qu'est-ce qui te coince? Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie après ce qui s'est passé de terrifiant pour l'ensemble de ta famille, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour être vivant, quoi, et pour assurer une continuité?
Vous nous parliez de ces symptômes que peuvent avoir donc les enfants de survivants ou les enfants d'enfants cachés. Vous traitez donc à la fois les enfants cachés et leurs enfants, peut-être même la génération d'après. Est-ce qu'il y a des symptômes similaires ou est-ce que la transmission, on va dire, de ces pathologies est au contraire très différente, on va dire?
Alors, en fait, on va dire que du point de vue psychiatrique ou strictement psychanalytique, il n'y a pas d'invariant, c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on peut... D'abord, il y a des survivants qui n'ont pas de symptômes. Bon, c'est assez rare. En général, il y a quand même des troubles du sommeil chez la plupart des anciens déportés, des survivants. Mais disons que chez les descendants de survivants, on n'a pas constaté de transmission de symptômes de façon systématique. Il y a de tout. Il y en a qui n'ont pas de symptômes, hein. Il y a des enfants de survivants qui vont très bien.
Oui, comme vous le disiez, c'est souvent un dans la fratrie qui va...
Oui, c'est un dans la fratrie qui porte les symptômes et les autres vivent leur vie, n'ont pas besoin d'aller consulter. Et puis, il y a de temps en temps, enfin, nous, c'est ce qu'on rencontre. En plus, moi, je ne vous parle que des gens qui viennent consulter. Donc, en fait, il y en a plein qui vont très bien, qui mènent leur vie et qui voilà. Hein. Et moi, je vous parle de ceux qui... Pour qui ce poids est difficile, ceux qui présentent des symptômes, et ce qui est étonnant chez certains, c'est des symptômes qui sont, ou des obsessions qui sont directement liées à la Shoah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on s'est interrogé, c'est-à-dire on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Shoah, c'est une expérience traumatique, ça se vit. Un traumatisme, c'est vécu, c'est la personne qui a vécu le traumatisme, la menace de mort directe, qui est malade. En général, les gens autour de la personne sont sensibles, voient bien que la personne souffre, mais n'héritent pas. Là, on est en face de personnes qui, par moments, font des cauchemars, sont poursuivies par des nazis, ont des terreurs dans les gares, ont des attaques de panique qui ressemblent aux attaques de panique de leurs parents survivants. Donc on se dit, mais il y a quelque chose comme si elles avaient vécu les mêmes choses. Et au fond, quand... on discute en profondeur avec ses patients, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est là et qui a été transmis à juste titre. C'est aussi, c'est la préoccupation qu'ont eu les survivants et surtout ceux qui sont morts dans la Shoah, hein, que la Shoah ne puisse pas se reproduire. C'est-à-dire qu'ils ont été complètement... Les victimes de la Shoah ont été totalement surprises. La plupart des victimes ne s'attendaient absolument pas à ce qui allait se passer. N'imaginez pas une telle horreur. Mais une fois qu'ils sont dans l'horreur, une fois qu'ils ont été dans l'horreur, ils se sont dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais comment... Bon, nous allons disparaître, ou nous n'allons pas survivre, mais si nous avons des enfants cachés quelque part, au moins qu'ils ne vivent plus jamais cela, que cela ne se reproduise pas. Et au fond, je dois dire que depuis quelque temps, avec les événements, je parle des patients que nous voyons ici en France, à Paris, avec les récents événements depuis l'affaire Mera, depuis ce qui s'est passé à l'hypercachère, les jeunes générations présentent des troubles et disent « ça recommence ». Et au fond, la terreur, ce qui était transmis, c'était « attention, ça a été une horreur, nous avons été surpris, nous n'avons rien préparé pour nos enfants, pour nos familles, pour nous-mêmes ». Mais attention, ceux qui ont survécu, ils ont pour tâche que ça ne se reproduise plus jamais. Et là, il se passe quelque chose d'abominable. C'est comme si c'est comme si ça revenait. Et donc, un certain nombre de patients que nous voyons, nous, aujourd'hui, disent, ça recommence, on est pris par des terreurs et des angoisses qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, toutes ces années, 70 ans plus tard, on ne s'est pas occupé de nous protéger, et on voit arriver des personnes qui sont en souffrance, qui ont des petits. En fait, c'est la troisième génération. Il y a des petits-enfants de 2 ans, 3 ans, et qui développent des angoisses en regardant leurs petits, en disant « Mais alors tout ça, ça va recommencer », et ils sont pris de panique. Donc c'est pour ça que je vous disais, on a besoin des historiens, des politiques, des acteurs de la vie sociale et artistique, de tous les acteurs de notre société pour parer, pour guérir nos patients.
Mais quand vous disiez que c'était sciemment, ça veut dire que ce sont des... Vous parlez de messages écrits, par exemple, qui ont été transmis à ces enfants, ou une transmission, finalement, presque de l'ordre de l'inconscient est-ce qu'il y a besoin de la parole pour que ce soit transmis, en fait? C'est ça, ma question.
Alors, vous faites référence à ce dont on avait déjà parlé dans d'autres situations, c'est-à-dire que vous avez certaines personnes qui ont reçu des messages qui ont été envoyés des trains, ou certaines personnes qui ont lu... qui étaient dans les ghettos et qui regardent les traces qui sont laissées sur les murs des ghettos juste avant que les Juifs ne soient assassinés, et qui lisent ces traces ou qui lisent ces mots envoyés par les petites ouvertures des trains sur lesquelles il y a marqué « Vengez-nous ». Effectivement, « Vengez-nous », ça veut dire en fait quoi ? Qu'on réfléchit à quoi ont pensé les morts juste avant de mourir. Quand vous étiez une mère de famille, quand vous étiez un père de famille, quand vous étiez un frère, évidemment que vous vous dites, j'ai laissé derrière moi, à côté de moi, des enfants ou des frères ou de la famille. Vous pensez à eux et vous vous dites, mais eux, il faut qu'ils survivent, il faut qu'ils fassent quelque chose pour nous qui ne pouvons plus rien faire, nous allons mourir. Et ces dernières pensées, ces dernières volontés, au fond, des morts, bien, on peut les imaginer, c'est faites quelque chose pour nous et puis faites en sorte que ça ne se reproduise plus. Et c'est la logique même de la situation. Donc quand on est survivant, enfant, ou quand on est après ça, quand on y réfléchit, ça c'est une pensée logique.
Je vous remercie beaucoup, Nathalie Zage. J'invite donc les auditeurs à poursuivre cette réflexion avec ce colloque, Les générations d'après, qui aura lieu le dimanche 11 octobre à partir de 10h au Mémorial de la Shoah à Paris, entrée libre mais sur réservation. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.